deux minutes, pour un petit peu déborder, mais pas beaucoup non plus, une vingtaine de minutes, pour une première série de questions. Donc la parole est à la salle.
Alors, combien il faut commencer, j'en profite. Alors, simplement, c'est une simple... Bon, j'ai trouvé les interventions très intéressantes et très instructives. Simplement, une question très pratique posée à Stéphanie Quelpoutre. Il se trouve que j'ai rédigé, en fait, la partie de la stratégie nationale sur la mise à niveau du droit international comme consultant de Capital Consulting, et j'ai pas eu de nouvelles du tout, donc j'étais ravi de cette mise à jour, parce que c'est toujours comme ça, on est consultant, on écrit son papier, et puis ensuite il n'y a absolument aucun suivi, mais je suis ravi. Et alors moi, c'est simplement une question très personnelle, évidemment je me suis fait plaisir comme universitaire, donc j'ai pu mettre tout ce que j'avais envie de mettre, dans la plus grande transparence et sans aucune contrainte, c'était d'ailleurs très, très, très agréable. Peut-être lié aussi au fait que Capital Consulting était obligé de faire appel à des gens qui connaissaient le sujet, parce qu'ils ne le connaissaient manifestement pas. Et donc moi, ma simple question, j'avais proposé de la ratification d'un certain nombre de textes internationaux, assez nombreux, mais voilà, je suis internationaliste, donc j'en ai profité. Et puis je voulais juste savoir si vous avez des nouvelles à ce sujet, s'il y a des processus de ratification suite à cette stratégie nationale. Est-ce que les choses vont bouger ou pas?
C'était une question pour Nadia. À propos des extraits de PV, vous avez mentionné la source Gaden. Donc c'est une source, c'est une association. Je suis assez surprise du fait que cette association ait accès aux extraits de PV de la police. Si possible, mais pas si facile d'accès. Donc, en tout cas, ne passons pas par une association. Je voulais savoir comment ça se. Voilà, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur le point de vue méthodologique, comment avoir accès à ce type de source, c'est confidentiel. Enfin.
Il y a d'autres questions encore dans la salle ?
Oui, deux petites questions. Une pour Al-Hussein, parce que du coup, tu es passé finalement très vite sur la question de la législation, du cadre juridique. Et je voudrais y revenir pour savoir notamment ce que devient ce projet de loi qui commence à venir maintenant. Voilà, est-ce que quelqu'un travaille dessus ou il est seulement dans un placard? Et puis, une question pour Souhaïma aussi, je voulais savoir, donc tu as beaucoup parlé de la référence à la Convention de Genève, effectivement, de ta description, on a l'impression que finalement, il y a un copier-coller, mais est-ce que toi, tu as identifié des éléments, justement, en lien avec la présentation, par exemple, d'Hélène ce matin, en lien avec la diffusion des normes européennes dans le projet de loi. Il y aura notamment, justement, sur les procédures accélérées, sur les statuts alternatifs, comme la protection temporaire.
Non. Je réponds tout de suite.
Encore une question, on va couper les réponses.
30 secondes, c'était juste pour en savoir un peu, justement, sur ce capital consultif, à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un produit marocain ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? Ça a quand même l'importance.
C'est une question que vous posez à notre nom à tous.
On veut savoir
qui est capital consultif.
Je propose de répondre.
Concernant donc les conventions internationales, oui, je me souviens qu'il y avait un certain nombre de conventions qui étaient ciblées. Et justement, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Et je sais qu'il y a des réflexions qui ont commencé sur les conventions sur la patrie. Et là, ça, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de la réflexion nationale actuelle sur la problématique de la patrie pour les Marocains, les risques de la patrie. Et nous, au HCR, on a lancé une campagne aussi sur la patrie, donc on y reviendra très certainement. Mais en tout cas, c'est bien présent dans la tête des autorités marocaines. Capital Consulting, si je me permets, si, enfin, je pense que vous avez peut-être plus à dire sur Capital Consulting. En tout cas, moi, j'ai rencontré une des deux personnes qui était en charge du projet, dont j'ai oublié le nom de famille, mais il s'appelait Rostam. J'ai oublié son famille, désolée. Je dois l'avoir dans mes contacts, hein, je promets, je vous le donnerai. Mais en tout cas, il n'est plus au Maroc. Il était. Voilà. Non, il est revenu à Paris. Il est retourné à Aix. Donc, en tout cas, c'est un gros cabinet de consultance, mais ils font dans tous les domaines. Et pour eux, ils ont répondu à un appel d'offres du ministère et puis ils ont obtenu le marché. Et en fait, après, ils sont allés chercher des consultants experts à l'étranger. Et moi, j'ai rencontré un consultant qui est, alors, le Sénégalais, je ne sais plus comment il s'appelle non plus, je suis désolée. Mauvaise mémoire des prénoms. Voilà.
Mais en fait, c'est un cabinet marocain, ça c'est important, international, qui est spécialisé dans le consulting. Et il nous avait consulté en amont pour préparer la demande de financement. Je ne sais pas pourquoi, moi, ils m'avaient contacté. Et puis, ils nous ont associés à simplement, comme ça se fait de partout, dans le domaine de la recherche, dans le domaine. Il y a beaucoup de cabinets de consulting aussi européens qui drainent un grand nombre de fonds de recherche européens, de l'Union européenne. Donc voilà, c'est une pratique assez courante qui ne m'a pas surpris du tout. Ils ont fait appel à des experts externes pour postuler pour faire la demande en leur nom et qui a été acceptée. Mais c'est un cabinet à résonance internationale mais qui est marocain.
Après, des consultants qui avaient été recrutés par Capital Consulting ont aussi été consultants pour l'Union européenne sur le même domaine, exactement au même moment. Donc,
je réponds tout de suite à la question de Delphine. C'était par rapport à l'influence des normes européennes. Oui. Moi, j'ai constaté surtout un phénomène de copier-coller de la Convention de Genève. Hein. C'est pratiquement donc, je peux dire que les rédacteurs du projet de loi ne sont pas allés chercher très loin. Ils ont pris la Convention de Genève et ils ont transformé les articles de la Convention de Genève en articles du projet de loi. C'est pratiquement, on retrouve la définition du réfugié, la procédure, les droits d'assimilation nationaux, et l'assimilation aux étrangers, le retrait, les causes d'exclusion, etc. C'est vraiment un projet de loi qui colle, qui reprend la Convention de Genève. Alors, est-ce qu'il y a une certaine influence du droit européen? J'en ai pas vu, notamment la protection temporaire ou subsidiaire, il n'y a pas de trace, je l'ai dit. L'externalisation du droit d'asile non plus, il n'y a rien sur cette question fondamentale pourtant, hein, parce que c'est ce qui risque de... je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est ce qui risque de poser problème au niveau de l'adoption de cette loi. Voilà, sinon, pour rendre. Nadia ?
Oui, je crois que c'était la question sur les sources. Donc, le GADEM, c'est une association marocaine de défense des droits des étrangers, je me dirais de rien voir, qui s'appelle le groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers migrants. C'est une association. Oui, j'ai l'impression qu'il y a.
Ils sont tous les deux terminés leur journée. Hein. Plus de batterie.
Donc c'est une association qui fait de l'assistance juridique et dans ce cadre-là, qui fait de l'accompagnement aux étrangers dans l'accès au droit, qui accompagne des dossiers parfois sans l'assistance d'un avocat, parfois avec l'assistance d'un avocat. Donc certains documents, parce que bon, là, en fait, moi, j'ai travaillé pour le GADEM, j'ai travaillé dans le milieu associatif pendant plusieurs années, avec logistique, il y a un peu les mêmes types de procédés et qui utilisent aussi parfois l'analyse de documents de procédure, même si c'est difficile à obtenir en France et au Maroc, et avec le GADEM. Donc, ces documents-là font partie de mon expérience professionnelle et j'ai pu en obtenir d'autres ensuite, par des personnes qui, sachant que je travaille sur le sujet, les personnes concernées par les dossiers, parce que donc, ces gens-là, je les connais, les gens qui m'ont donné les procès-verbaux ensuite, je les connais, donc avec leur autorisation et sous couvert d'anonymat. Donc voilà, c'est assez compliqué à avoir. Certains se les procurent par des avocats. Moi, je n'utilise aucun document de procédure où je ne connaisse pas la personne et où j'ai pu lui demander directement son autorisation. Mais ceci dit, l'accès aux documents est aussi compliqué pour les jugements qui sont, eux, par contre, a priori publics. Donc, autant les documents de procédure ne devraient pas circuler normalement, autant les jugements sont aussi compliqués à obtenir. Mais voilà, là, c'est par le biais d'une association qui m'a aussi permis de créer des liens et ensuite de pouvoir en obtenir d'autres directement.
Il y avait aussi une question pour moi. Par rapport à la révision du cadre. Donc il y avait une question par rapport à la révision du cadre juridique qui avait remise à plus tard. Je pense que, en fait, le projet de loi réformant les conditions. Le cadre de la migration en mars qui date de 64, qui devait donc être révisé par le projet dont tu as parlé tout à l'heure, correspond finalement bien jusqu'à aujourd'hui aux priorités du gouvernement. En réalité, on a essayé de légiférer sans qu'il y ait une forte demande interne pour ça. Et sans que l'on soit réellement convaincu. À mon avis, ça s'est passé dans une séquence qui était celle de la transition 2006-2007, où il y avait un mouvement d'euphorie autour de la révision, d'une remise à plat beaucoup plus générale d'ailleurs du droit, et où il y a eu un certain nombre d'avancées. Et la question de la migration, effectivement, était à l'ordre du jour de ces révisions. Mais il était à la limite plus sur l'initiative de juristes que de la partie gouvernementale en tant que telle. Très tôt, en tout cas, il est apparu à la lecture du projet lorsqu'il est passé du ministère de la Justice dans le pacte du gouvernement, qu'il ne pouvait pas passer, qu'il était trop tôt au regard de la situation. Du niveau de connaissance et de la maîtrise des données et des flux, il était peut-être très tôt pour adopter un texte comme celui-ci, dont on a d'ailleurs relevé, comme tu l'as fait tout à l'heure, que c'était un simple copier-collé du texte français, et donc par ailleurs absolument pas adapté. Ceci est en partie sans préjudice pour les droits des migrants qui vivent, non pas dans une situation idéale, mais en tout cas dans une forme de bienveillance qui tient à l'attitude traditionnelle à leur égard, et puis par ailleurs qui bénéficie des droits que créent des textes parfois directs avec la migration, et parfois sans être des textes relevant proprement du droit de la migration, sont des textes qui touchent les populations immigrées. Je veux parler ici de la législation récente qui renforce donc la protection contre la torture et le traitement dégradant. Il est sûr que pour les immigrants irréguliers, entre guillemets, c'est un texte protecteur, même si ce n'était pas initialement l'objectif. Pareil pour le travail domestique, qui est maintenant encadré par un texte qui précise les droits, etc. C'est quelque chose qui va avoir aussi un réel impact pour les populations immigrées qui forment notamment les bonnes sanitaires, qui forment le gros peut-être du contingent des travailleurs immigrés sanitaires en Mauritanie. Voilà, je pense que la priorité pour la Mauritanie, c'est d'achever, même si ce n'est pas explicité. Je pense que c'est d'achever d'abord la maîtrise de qui est Mauritanien, qui l'est, pour dire les choses franchement. Viendra le temps après de s'occuper plus des droits des migrants, qui par ailleurs, de fait, ne vivent pas dans une situation. situation d'arbitraire absolu. Si on regarde les chiffres, leur nombre n'a pas baissé depuis des années, il est même en évolution. Le seul texte dont j'ai connaissance depuis la dernière fois qu'on avait échangé, c'est un texte de 2012 qui est relatif. Donc, mais ce n'est pas tellement une affaire d'immigration, c'est une affaire de sécurité à mon avis, parce que c'est sur les nouvelles cartes de séjour, mais pour y introduire la biométrie, etc. Mais qui sont par ailleurs très chères. Hein. Plus chères que les cartes de séjour en France qui représentent un coût un peu prohibitif pour les populations immigrées qui ne sont pas toujours très riches.
Alors, je crois qu'il y avait d'abord une question au fond, si tu m'appelles.
Question de la Tunisie et de l'Algérie. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des accords entre la Tunisie et l'Algérie pour cette expulsion? Pourquoi l'Algérie accepte de prendre ces gens-là, les députés? Et donc, je me demande si est-ce que l'Algérie a plus de soutien de la part de l'Union européenne pour faire les expulsions après avec l'avion, ou s'il y a des accords qui ne sont pas publics?
Je ne pense pas qu'il y ait des accords.
Non, je demande parce
que... Oui, je n'ai pas d'informations précises, mais je ne pense pas qu'il y ait des accords entre l'Algérie et la Tunisie pour pour l'expulsion, pour la réadmission. De toute façon, ces personnes-là qui ont été expulsées, notamment le cas de Bright dont j'ai parlé, ne sont pas passées par l'Algérie.
Ils sont
venus à partir de la Libye suite au conflit.
Ah
oui, oui, elles ont été lâchées dans la nature, tout simplement.
Entrées.
Il y a quatre qui sont entrées sur le territoire algérien. Bon, apparemment, elles ont dû négocier avec les gardiens, la police des frontières. Et les autres sont reparties en Tunisie, ne sont pas du tout entrées. Mais c'est une situation de non-droit total, hein, quoi. Et je ne pense pas qu'il y ait des accords dans ce sens. Pour les expulsions, parce qu'il ne peut pas y avoir des accords dans ce sens, c'est pas parce que les textes de droit doivent traduire des règles logiques, légitimes. Quel serait l'intérêt pour l'Algérie, en vertu de quoi, quel droit va-t-on consacrer à travers ce genre d'accord? Il n'y a aucune raison qui pousserait les autorités algériennes et tunisiennes à passer ce genre d'accord. C'est un non-sens, quoi, d'expulser les gens. Et ça ne peut pas, donc, remonter au niveau du droit, parce que le droit répond toujours quand même à un souci, il y a toujours un souci d'équité dans les règles juridiques. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir des accords dans ce sens.
Ben, je vais ajouter une chose, je pense que l'initiative, elle surprend doublement. On nous parle... que des policiers décident ainsi d'expulser.
Oui, tout à fait. On n'en parlait pas.
Et la deuxième, c'est qu'il n'y ait pas eu d'incident diplomatique.
Parce que le nombre de personnes, je pense, heureusement, n'est pas très important. Hein, mais je suis incapable de vous donner des chiffres exacts. Il faudrait aller voir le ministère de l'Intérieur, peut-être. Et là encore, je pense qu'il serait secret sur cette question.
Et le Maroc les a habitués pendant un certain temps à recevoir des personnes de l'autre côté,
oui, voilà.
Sans autorisation.
C'est pas des accords, hein, c'est une pratique policière, ni plus ni moins.
On a une dernière question.
Oui, alors, rapidement, alors, juste pour réagir à ce qui vient d'être dit. Déjà avant 2011, la Tunisie expulsée.
Oui.
Personnes en situation irrégulière qui étaient détenues à Ouerdia pendant au moins un mois, et si au bout d'un mois ils n'arrivent pas à avoir le titre de transport pour rentrer dans leur pays par l'intermédiaire de leur famille, ils étaient expulsés du côté des Libyens. Et à l'époque, il y avait, malgré vraiment l'alliance entre les deux régimes, il y avait des incidents sérieux, des tensions entre les deux pays, parce que la Tunisie renvoyait les subsahariens dans le désert.
Oui.
Je vous montrerai ça demain. Du côté libyen, il vient les ramener, donc il avait des intentions. Moi, je suis vraiment étonné, Martin, je ne sais pas si toi, qu'on a parlé, comment ça s'est fait, pourquoi c'était l'Algérie, alors que normalement, je veux dire, c'est une frontière qui est sous tension, comme la frontière avec la Libye, et comment ça se fait que la Tunisie expulse ça, moi, j'arrive pas.
Oui, c'est du zèle policier.
Oui, zone militaire, tout ça, alors que je veux dire, c'est une zone sous tension à cause de, je veux dire, des groupes armés qui sont dans la montagne à côté. Donc moi, je ne comprends pas ça. Et je crois qu'il faudrait qu'on sache et qu'on regarde de plus près comment c'était.
Le ministère de l'Intérieur, je pense.
Enfin, on va essayer de suivre ça. Alors rapidement, deuxième question, mais enfin, j'essaie un peu de jeter un regard croisé sur toutes les interventions. Il me semble que les quatre pays, hein, on a parlé des quatre pays, c'est ça, sont à des moments, à des vitesses différentes de refonte des législations. Je crois que la Tunisie, elle est uniquement sur le droit d'asile, alors que nous avons plaidé, on peut en parler, nous avons plaidé pour une réforme totale des lois relatives à la gestion des étrangers et des migrants en Tunisie. Alors que ces lois sont totalement en contradiction, y compris avec la nouvelle constitution. Et il n'y a pas un chantier, il n'y a pas une idée, il n'y a pas d'intention par là. Aucun des trois gouvernements qui se sont succédés sur la Tunisie depuis 2004 pour réformer ces lois-là. Oui. Alors qu'il y a une tendance, enfin, beaucoup d'hésitation par rapport à la loi sur l'asile. L'Algérie, je pose la question, Sérif, est-ce qu'on. Vous avez parlé tout à l'heure de la disposition, c'est ça, africaine ?
De la position.
De la position, la position africaine commune, voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis et est-ce que l'Algérie compte mettre en place ou il y a une idée de mettre en place une loi sur l'asile
sur, oui, oui.
Une loi interne sur l'asile. Attendez, d'accord. J'ai d'autres questions. Alors, la deuxième question, et ça, elle rejoint celle du Maroc. Quelles sont les logiques qui font que, par exemple, le Maroc a mis en place cette initiative de nouvelles politiques d'immigration? Moi, j'ai entendu à un certain moment que c'était entre autres avec la nouvelle stratégie marocaine vers les profondeurs d'Afrique, vers l'Afrique subsaharienne, pour faciliter les relations et, les relations économiques entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, tous les pays d'Afrique subsaharienne anglophones, et c'est de un peu régulariser et de un peu formaliser cette présence. Alors maintenant, vous me dites qu'il y a 30 000 à peu près entre Français, enfin Européens. Donc, cette nouvelle loi profite plus aux Européens que aux Subsahariens. Alors que, au début, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'elle était destinée à tendre un peu les relations entre le Maroc et les pays dont sont originaires ces ressortissants qui sont en situation régulière. Et la même chose, je la pose par rapport à l'Algérie. Oui, parce que vous n'avez pas parlé de ces chiffres, mais est-ce que vous pouvez nous dire, l'Algérie, quand même, dans le sud surtout, reçoit beaucoup de subsahariens proches, voisins, nigériens, maliens, tout ça. Comment se fait la gestion de cette immigration irrégulière? Est-ce qu'elle répond vraiment aux injonctions européennes? Est-ce qu'il y a une injonction européenne par rapport à ça? Vous êtes dans la même situation que le Maroc, mais les manières de procéder ne sont pas les mêmes. Dernière question, juste technique, celle-là pour. Nadia, c'était par rapport au chiffre que vous avez donné tout à l'heure, vous avez dit 52% de titres de séjour bénéficiaires aux Européens, 18% aux Africains. C'est les titres de séjour normaux ou dans le cadre de la régularisation? Merci.
D'accord. Alors, vous dites que l'Algérie reçoit beaucoup de migrants. Le chiffre officiel donné par le Premier ministre au Sénat, il y aurait 25 000 migrants africains. C'est un chiffre surprenant. C'est un chiffre surprenant pour l'Algérois que je suis, parce que les rues d'Alger.
Elles ne sont pas noires de monde, quand même.
Pardon? Je dis, elles ne sont pas noires de monde. Sans mauvais jeu de mots, si. Et justement, au moment où je vous parle, et là, ce sont des éléments de réponse à votre deuxième question, au moment où je vous parle, se déroule la deuxième grande opération de transfèrement des Nigériens, pas les Maliens, parce que il y a surtout des Nigériens et des Maliens. Donc depuis deux ou trois jours, avant même que je ne prenne l'avion, il y avait avec l'aide de l'auxiliaire principal des pouvoirs publics, c'est-à-dire le Croissant Rouge algérien, c'est lui qui assure cette mission. L'État lui a délégué cette mission pour transférer les migrants nigériens en accord avec le gouvernement nigérien, tous ces migrants irréguliers. S'agissant des Maliens, ils sont toujours au niveau des villes, et d'ailleurs ils vivent dans des conditions lamentables de mendicité. En réponse à la pression occidentale, comme je l'ai dit, effectivement, notamment européenne, l'Algérie a essayé d'opposer à une pression régionale européenne une position régionale africaine, d'où son initiative et son rôle déterminant dans la mise au point de cette position africaine commune qui est, disons, la base pour l'élaboration de véritables politiques migratoires dans la plupart de nos pays. Dans le même ordre d'idées, l'Algérie, mais j'ai été obligé d'écourter, s'est dotée effectivement d'une loi en 2008 qui abroge et remplace le texte de 2006 sur l'entrée et le séjour des étrangers. Et là, bien évidemment, il y a une volonté dans ce texte de mettre à niveau sa législation par rapport aux normes universelles, mais il ne faut pas se leurrer, par rapport aux normes occidentales. Et il y a bien évidemment la volonté de consacrer les droits de l'homme, etc., de consacrer des droits au profit des migrants, mais l'Algérie a fait une concession, je pense, extrêmement importante, c'est qu'elle a consacré les fameux centres, d'ailleurs elle utilise un euphémisme, l'Algérie parle dans ses textes de centres, il faudrait que je retrouve la formule exacte,
d'attente.
Centre d'attente, alors qu'il s'agit en réalité de véritables centres d'internement et de détention en attendant le rapatriement forcé, manu militari, vers les pays d'origine.
De toute façon, le consolement des Nigériens se fait par la poche, ou c'est pas volontaire.
Bien sûr.
Ces expulsions,
ce sont les forces de sécurité. Ce sont les forces de sécurité qui, à travers les villes du Nord, pardonnez-moi l'expression, ramassent les Nigériens, et ensuite ils sont confiés aux croissants rouges algériens qui les fait transiter par les centres du sud, notamment de Tamaras. Du Niger. Par contre, je crois savoir, même si je n'ai pas le texte, il y a avec le Nigeria, il y a une convention de, et c'est intéressant, une convention de réadmission. Hein? L'Algérie n'a pas passé uniquement des conventions de réadmission, conventions bilatérales. L'Algérie privilégie les conventions bilatérales avec la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Allemagne. Mais il y a également une convention avec le Nigeria. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.
On va laisser Nadia Kroussel rapidement.
Oui, je vais essayer rapidement parce que la question sur les déterminants de la nouvelle politique, ce n'est pas évident d'y répondre rapidement. Mais je dirais que la nouvelle politique, déjà, ça a été une impulsion du Conseil national des droits de l'homme et du roi. À un moment où, le jour de l'annonce du roi, par exemple, le Maroc était examiné devant le comité pour la convention sur les droits des travailleurs migrants. Et les personnes qui étaient envoyées par le gouvernement ont dû répondre en même temps à des accusations liées aux droits des étrangers et en même temps ont reçu l'annonce de la nouvelle politique migratoire, d'un changement radical de positionnement. Donc c'est un peu compliqué parce que tous les acteurs n'étaient pas forcément ni informés, ni préparés, ni disposés à accueillir cette politique. Ensuite, sur les déterminants, c'est un peu compliqué parce que la question des relations avec l'Afrique se pose. C'est pour ça que ça a été aussi que ce soit l'opération de régularisation ou la nouvelle politique, on l'a beaucoup présentée comme étant une opération pour les subsahariens, une politique pour les subsahariens. Il y a la question des investissements du Maroc en Afrique de l'Ouest en particulier, et de l'utilisation du Maroc comme plateforme aussi pour faciliter le commerce avec d'autres zones géographiques. Il y a la question de l'intégrité territoriale qui est priorité nationale au Maroc. Donc voilà, il y a tout un ensemble de raisons qui peuvent expliquer le lancement de cette nouvelle politique, mais aussi la manière dont les acteurs peuvent s'en approprier. Donc ce dont j'ai parlé par rapport aux Européens, c'est un état qui n'est pas actuel, c'est une situation qui existait déjà, et qui, voilà, qui interroge quand on parle de politique globale sur la vision partielle qui peut être faite des immigrés au Maroc ou des immigrés en situation irrégulière. Voilà, l'adoption de la Constitution aussi de 2011, qui fait que l'indexation sur les questions de droits de l'homme pose d'autant plus problème avec tous les nouveaux engagements pris par le Maroc. Sur les chiffres, je voudrais saluer aussi le travail qui a été fait par exemple l'Institut Florence et le site Karim, qui a permis d'avoir certaines premières données liées aux présences étrangères au Maroc. Les chiffres ne sont pas faciles à obtenir et la nouvelle politique a permis quand même de révéler certaines données, dont sur les étrangers qui travaillent. Voilà, il y avait des petits éléments épars qui commencent à être complétés, qui sont encore incomplets. Donc c'est les titres de séjour délivrés par le ministère de l'Intérieur pour les étrangers réguliers, en général, indépendamment même des régularisés, qui ne prennent pas en compte l'opération de régularisation.
Merci beaucoup pour cette réponse. Il est temps de conclure, au moins provisoirement, puisque nous nous retrouverons demain. Je voudrais chaleureusement remercier les intervenants pour la qualité, la densité, la clarté aussi de leurs interventions. Je voudrais aussi remercier le public qui a les nombreuses questions qui ont été posées et qui ont encore se poser. Merci beaucoup.